De retour à l'émission littérature sur Radio Campus Orléans, nous allons parler de Les Effondrés avec Mathieu Larnaudy. Merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone.
Bonsoir.
Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques minutes justement, je parlais aux auditeurs de Les Effondrés et sur la documentation que vous avez dû rassembler pour écrire ce livre qui fourmille de détails et qui est très très précis justement. Dans Les Effondrés, vous mettez à jour des personnalités financières qui nous étaient jusqu'ici cachées et qui se sont révélées par la crise. J'imagine que vous avez dû faire un travail assez conséquent de documentation sur ces financiers. Et ma question, c'est quelle jubilation vous a procuré le rassemblement des vos informations, de la documentation les concernant ?
Ben, c'était précisément l'un des aspects très excitants en fait de ce travail-là, parce que non seulement il y avait la documentation à rassembler, mais surtout elle était très mouvante, parce que en fait j'ai écrit le livre de janvier à septembre peut-être, donc 2009, c'est ça. Donc en fait, on était encore dans le cours, non plus vraiment de la crise qui s'est déclenchée vraiment à l'été 2008, et puis surtout son point d'orgue a été aux alentours de septembre, mais on était encore évidemment dans les conséquences, dans les portraits de ces acteurs, et donc sans cesse j'avais à renouveler la documentation qui m'arrivait. Donc c'était un travail effectivement assez minutieux et puis tout le temps remis en cause. Il y avait des éléments qu'on connaissait sur certains personnages, je pense notamment à ceux qui l'ont incarné avec le plus de férocité, comme Madoff par exemple. Ce qu'on savait sur lui a été évidemment très évolutif dans le temps même de mon écriture. Donc moi j'avais aussi à intégrer toutes ces nouvelles données. Et donc j'étais comme dans une espèce de prise directe comme ça avec ce qu'on apprenait par les médias et puis par des recherches un petit peu plus poussées que j'ai pu faire par ailleurs. Et ça a vraiment effectivement participé à l'excitation de l'écriture.
C'est presque une jubilation de voyeur.
Voyeur, je sais pas, parce que en même temps le fait même d'être en train d'écrire et surtout la forme que j'avais décidé d'emprunter maintenait quand même une espèce de distance, donc peut-être pas avec cette petite jubilation perverse qu'on entend quand on parle de voyeurisme, mais en tout cas non, l'excitation tenait plus à ce qui se passait dans la forme même que j'étais en train de travailler. Et puis après, sans parler de voyeurisme, il y avait effectivement quand même un moment où jouer avec les événements et les mettre en perspective comme ça me donnait effectivement un nouveau regard, quoi.
Parce que c'est une documentation très très précise que vous avez rassemblée. Si on prend le cas de Madoff, par exemple, vous entrez vraiment dans le détail. Vous avez même, on viendra après à la question de votre langue et le sens magnifique de vos phrases, mais vous avez un sens des détails qui fait tenir aussi quelque part le livre d'avoir autant de détails. Ce n'est pas du tout un livre général, ce n'est pas un livre généraliste, même s'il l'est quelque part un petit peu aussi dans sa pensée. On est dans le détail des noms, alors souvent réinventés, mais dans le détail des objets, dans le détail des lieux. J'ai souvenir de Madoff, alors que vous ne citez pas, c'est un autre nom, mais on sait bien que c'est Madoff qui est dans son bureau, tous les employés sont partis, et là il y a le détail, on est dans ces visuels.
Ouais, moi ça m'intéressait justement d'aller chercher des détails presque infimes, mais qui d'abord étaient des moteurs d'écriture pour moi, et puis surtout me permettaient d'incarner un peu tous ces personnages-là, parce que souvent évidemment quand on parle de flux économique, quand on parle de quelque chose comme la crise, ou quand on parle de cours qui s'effondrent, et puis des personnages qui sont censés prendre sur eux et subir ces mouvements-là, on est quand même, par définition même, dans des tectoniques assez abstraites, comme ça. Et cette foule de détails me permettait d'être au plus près des corps, au plus près des situations, au plus près des visages, au plus près des gestes qu'ils accomplissent dans leur quotidien, comme vous dites, le bureau de Madoff, le bâtiment dans lequel était situé son hedge fund et tout ça m'intéressait de pouvoir le décrire très en détail. Et puis par ailleurs, je trouve que ces détails sont souvent très significatifs et qui sont précisément ce qui est occulté généralement dans le peu qu'on sait de ces personnages-là. Donc j'avais effectivement cette minutie à apporter qui me semblait nécessaire au texte.
Et vous vous faites là du coup cruel. J'ai l'impression que vos détails donnent
Ah bon?
une cruauté infinie à ces personnages qui sont déjà effondrés, même si, enfin, vous ne les décrivez pas du tout avec sympathie. Enfin, j'ai l'impression que vous avez utilisé une langue neutre pour les décrire, mais justement, c'est ce sens du détail qui va les rendre complètement effondrés. Par exemple, j'ai cette toujours autour de Madoff. Ce passage sur un de ces rabatteurs qui a écumé les clubhouse des country, des tennis, des golfs un peu chics et des bars des grands hôtels et qui se fait à un moment donné complètement tabasser en fait.
Ouais, qui se fait alpaguer, oui, je sais pas s'ils sont...
Alors vous n'êtes pas saignant dans la description, mais c'est un peu dans ces petits détails des objets qui sont autour, c'est là où on s'aperçoit que...
Mais ça, par exemple, cette scène est vraie. Cette scène, je l'ai lue l'un des nombreux textes ou articles que j'ai alors compilés et lus sur Madoff. Et effectivement, elle est évidemment saisissante, puisque ce rabatteur se fait littéralement dans un milieu habituellement très compassé et très voilà, où l'étiquette est très importante et la politesse de même, d'un seul coup se fait prendre par le revers du coltard et se fait durement secouer. Donc effectivement, je ne sais pas si ça révèle de ma part une cruauté. Je crois qu'en fait la cruauté, elle appartient à la scène même et à cette espèce de dévoilement, de mise à nu qui s'opère entre les personnages interdépendants qui ont incarné la crise, c'est-à-dire là précisément un rabatteur, donc lui qui était dépendant de Madoff, l'auteur de l'escroquerie, et puis la personne qui l'alpague, c'est quelqu'un qui a mis de l'argent et qui se retrouve donc dépouillé. Donc en fait, cette cruauté-là, elle est inhérente au système finalement. Moi, ce que j'ai fait, c'est simplement la soulever, la montrer comme ça.
Alors, votre approche critique du système économique, elle se fait par un retournement du discours. C'est ceux qui étaient les rois de la finance que vous présentez là et qui sont devenus des rois nus. Jusqu'ici, c'était des personnes qui étaient cachées, qui n'étaient pas connues, dont on n'avait pas, donc il y avait pas de documentation sur eux, sur leur vie. Et soudain, avec cette crise, ils sont devenus complètement visibles. Ça fait partie aussi de ce système d'effondrement, peut-être de les rendre visibles.
Complètement, tout à fait. C'était ça qui était saisissant dans le dévoilement de la crise et de comment elle était traitée médiatiquement. C'est que d'un coup, on voyait apparaître en pleine lumière des personnages dont avant on connaissait vaguement l'existence, ou plutôt dont on soupçonnait l'existence parfois, dont on connaissait un peu le nom, enfin qui n'étaient pas des personnages médiatiques, qui n'avaient pas vocation à l'être et qui souhaitaient absolument pas l'être. Et effectivement, d'un seul coup, des gens comme le président de la Fed, Alan Greenspan, devenaient des personnages publics. C'était déjà des personnages politiques, mais là ils devenaient vraiment publics, ils incarnaient quelque chose aux yeux du monde entier, et effectivement cette mise à nu-là était très saisissante, et moi ça m'intéressait justement de la souligner dans le texte. Et après vous dites, d'un seul coup ce sont des rois nus, mais effectivement c'était ça. Ce qui s'est effondré pour ces gens-là, c'est tout le réseau de croyances sur lequel leur pratique était fondée. Et effectivement, ce qui caractérise un roi, c'est pas tellement ce sur quoi il règne, c'est le fait qu'il règne de droit divin. En tout cas, c'est cette espèce d'incontestabilité de sa souveraineté qui fait un roi. Et c'était des gens dont la souveraineté était incontestable. Et d'un seul coup, elle a été remise en cause brutalement.
Est-ce qu'avec les effondrés, vous avez voulu écrire un livre de portraits?
Ça tient un peu de ça, effectivement. Je pense que j'aime bien dire comme ça, parmi les petites choses que je peux dire sur le livre, que c'est un portrait d'homme hagard. Et effectivement, une galerie de portraits d'homme hagard, plutôt. Et effectivement, il y a un aspect galerie de portraits, mais pas tant parce que ça m'intéressait de faire une série de personnages que parce qu'il me semble que la logique du portrait, c'est-à-dire prendre des corps comme ça, découpés dans l'espace et dans une situation donnée, et essayer de les rendre dans leur matérialité finalement, ça me semblait aussi une manière de dépeindre la crise qui d'abord différait de ce qu'on nous donnait à en savoir par le biais des médias, et puis qui avait une portée, enfin j'espère en tout cas, une portée matérielle, j'allais presque dire en termes de sensoriel, quoi, plus forte que ce qu'on pouvait en connaître autrement.
Vous venez de parler de galerie, de portrait d'homme hagard. C'est plus qu'une galerie, il y a une construction, il y a une mise en scène dans votre livre Les Effondrés qui se découpe donc par une petite vingaine de chapitres. J'ai envie de vous demander à quel moment vous les mettez en scène, à quel moment vous prenez ces personnages, parce que il n'y a que quelques petites scènes, enfin quelques petites scènes. Pour chaque portrait, il y a deux, trois scènes pour chaque personnage, deux, trois scènes comme ça. Comment vous avez choisi les scènes? À quel moment avez-vous décidé, enfin, comment vous avez décidé de les mettre en scène? Comment vous avez décidé de choisir les scènes dans lesquelles ils apparaissent?
Disons que le livre se construit comme si on voyageait, on circulait à travers une grande scène globale et simultanée, comme ça. C'est-à-dire que la crise serait le moment. Alors après, finalement, il y a un déploiement dans le temps qui se fait, qui se fait progressivement, mais qui c'est pas très historicisé. Le parti pris du livre était de traiter ça vraiment sous l'angle de la simultanéité. Et finalement, dans cette disposition-là, effectivement, après, chacun des personnages apparaît dans moi ce qui me semble être des moments clés, tout bêtement, de la crise et de sa dramaturgie. C'est-à-dire, justement, quand Alan Greenspan, dont je parlais tout à l'heure, apparaît devant le Congrès et doit se justifier de l'idéologie qu'il a mené, lui, en tant que responsable de la monnaie américaine pendant 40 ans et qui a échoué, quand, par ailleurs, Sarkozy énonce le discours de Toulon, qui est une sorte de réfutation du libéralisme, qui est presque une telle réfutation aurait été de la science-fiction un an et demi auparavant quand il faisait campagne, par exemple. Donc tous ces moments-là, ces moments dans lesquels je fais apparaître mes personnages, sont effectivement comme des clés, je crois, de la dramaturgie de cette grande scène globale.
Parce que ce qui m'a impressionné dans Les Effondrés, c'est cet art de la mise en scène. Vous avez un art profond de la mise en scène, et d'autant plus qu'à chaque fois, j'ai l'impression que vous décrivez des moments statiques, des moments comme ça qui sont figés. On passe
Oui, c'est vrai.
d'une scène à une autre, et votre art de la mise en scène, c'est dans ces moments statiques. Comment vous mettez ça en scène? J'ai cette scène, je ne sais plus pour quel financier de quel financier il s'agissait, mais où il est à son bureau déserté, et là il voit un modèle réduit. C'est quelqu'un qui est amateur de modèles réduits de grands voiliers. Il y a plusieurs modèles réduits de grands voiliers dans son bureau, et vous faites le lien modèle réduit de voilier. Lui, vous faites tac tac sans cesse comme ça un jeu de va-et-vient. Tout ça est très statique, mais il est dans son bureau, il n'y a rien, il ne se passe rien. On n'est même pas dans sa tête, c'est même pas lui qu'on entend. Vous utilisez uniquement les objets qui sont dans son bureau et juste sa simple présence physique pour nous dévoiler sa crise existentielle, parce qu'ils traversent tous une crise existentielle.
Oui, effectivement, il y a une certaine forme de. Il y a effectivement un aspect très statique dans ces scènes-là, parce que ce sont comme des prélèvements, en fait. Ce sont comme des prélèvements des moments où ces personnages se retrouvent, effectivement, comme vous le décrivez souvent, livrés à eux-mêmes à un moment charnière de leur existence ou de cet effondrement par lequel ils sont tous frappés. Là, en plus, la personne dont vous parlez, Thierry Magon de la Villuchée, la scène est préparatoire, si on peut dire, à son suicide. Et c'est quelqu'un qui c'était ce financier français parti vivre aux États-Unis en 81 pour fuir la gauche. Il s'était réfugié là-bas devant le péril rouge et qui était une des personnes qui a travaillé avec Madoff. Qui ont travaillé avec Madoff. Et donc lui était ruiné, c'était aristocrate breton avec un sens de l'honneur assez fort comme ça, et d'un seul coup, tout son système de valeurs, tout cet honneur dont il se revendiquait, s'est effondré. Effectivement, forcément, cet aspect hagard dont on parlait tout à l'heure, il se retrouve là dans ces moments de d'hébétude qui me semblent de toute façon ne pas pouvoir être autre chose que statique, parce que d'un seul coup c'est un effroi et c'est une espèce de ouais, presque d'arrêt sur image où eux-mêmes ont les yeux exorbités et n'en reviennent pas de ce qui leur arrive.
Et là, scène statique, mais on n'a pas parlé de la langue encore. Parce que là, il faut parler de la langue des effondrés, parce que cette langue, elle est incroyablement dynamique. C'est ça qui est surprenant, c'est ça qui m'a surpris. Ces scènes statiques et cette langue incroyablement dynamique qu'il tient notamment par la longueur démesurée des phrases. Vous faites des phrases d'une page quasiment. On est confronté à cette longueur de phrase, on est confronté à la possibilité de ne pas finir les phrases, et je fais ce lien un peu entre la longueur des phrases et la crise existentielle que traversent tous les personnages, une crise de leur existence, une crise sans possibilité non plus d'en finir. Pourquoi faites-vous des phrases aussi longues? Est-ce pour justement pallier aux scènes statiques, ou est-ce pour délivrer une sorte de message sur la crise existentielle de ces financiers?
J'allais dire que c'était les deux, parce que il me semble que cette espèce de syntaxe interminable, oui, enfin si on peut dire ça comme ça, enfin cette longue phrase en tout cas, me semblait la plus à même de rassembler toutes ces scènes là et justement de quelque chose de peut-être statique, ou en tout cas de moments séparés comme ça, elle permettait de les embrasser dans un même mouvement et donc aussi de donner à voir finalement une sorte de continuité de la scène simultanée dont on parlait tout à l'heure. Et il me semble que j'aurais vraiment pas pu écrire le livre dans une autre syntaxe parce que le projet même est chevillé à cette phrase là. J'en avais absolument besoin, quoi. Ça s'est vraiment imposé à moi comme une évidence, cette manière-là d'écrire. Ouais.
Cette phrase, cette syntaxe particulière, je ne l'ai pas trouvée dans vos autres livres. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place exprès pour les effondrer? Est-ce que vous comptez continuer à écrire ce type de syntaxe et de langue?
Je pense que je l'ai mise effectivement en place, ou plutôt, comme je disais, elle s'est imposée à moi. J'aime pas trop le côté un peu... mais imposé de l'extérieur, c'est pas tout à fait vrai, évidemment, j'étais complètement la jambe de ça, mais il y avait une sorte d'évidence, voilà, dans cette phrase là. Je dirais que l'objet du livre l'a imposé en priorité, donc pour répondre tout bêtement, je sais pas si ça conviendrait à d'autres objets ou à d'autres récits ou d'autres motifs comme ça auxquels je pourrais éventuellement m'intéresser après. Donc peut-être que cette phrase restera celle de ce livre et puis d'aucun autre. Je sais pas bien en fait. Ce qui est certain, c'est que si je lui trouve une pertinence à opérer sur d'autres objets, pourquoi pas. Mais là, effectivement, je l'ai quand même mise en place essentiellement pour ce projet-là.
Parce que cette syntaxe, la phrase, elle permet d'envelopper l'action du monde par sa longueur. C'est ça qui m'a stupéfié. C'est que la longueur de la phrase pourrait correspondre à l'action du monde dans sa longueur l'action du monde de la crise. Et j'ai trouvé que c'était presque une volonté cubiste. Avec cette longueur de phrase, ça vous permet de faire le tour de l'objet et de nous montrer un peu toutes ses faces. C'est-à-dire que c'est des scènes statiques et on a l'impression que vous faites le tour des objets, le tour de la scène statique en nous en montrant toutes ses faces en une seule phrase. Et j'ai trouvé presque que c'était une volonté cubiste.
Oui, mais exactement, c'est assez vrai ce que vous dites, parce que surtout moi, plus encore que sur ce que je décris, ce à quoi cette phrase